musiciens, Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous avons commencé notre culte, nous avons chanté, nous avons prié, et nous nous mettons maintenant sur l'Internet pour être avec vous. Que Dieu vous bénisse, j'espère que vous allez bien, c'est un beau dimanche, il fait beau, ça nous change. Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 15 ce matin. Matthieu chapitre 15, verset 22. Je vais lire le verset 21. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent : Renvoie-la, parce qu'elle crie derrière nous. Et il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui et lui dit : Seigneur, secours-moi. Il répondit : Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit : Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Alors, si on se contente de faire une lecture superficielle et sentimentale de ce texte, alors ça peut nous paraître vraiment bizarre. On ne peut que s'étonner de la réaction de Jésus qui d'abord dit rien du tout. Puis ensuite il dit non. Et puis qui change ensuite d'avis. Voilà une femme qui vient le supplier de délivrer sa fille qui est possédée, qui a un démon, et il refuse. Et la raison, il le dit, c'est qu'elle n'est pas juive, c'est une cananéenne. Ben, c'est pas tout à fait l'image qu'on a aujourd'hui de Jésus, n'est-ce pas, hein, qui, partout où il allait, ouvrait son cœur, ses biens aux malheureux, et... Oh, c'est le fauteuil qui se casse. Il faut réparer ça parce qu'il ne faudrait pas que la sœur tombe. Oh. Oh là là. C'est bon, ça va tenir. Non, c'est juste la couloir. Eh bien, il est temps qu'on parte, hein, c'est vieillerie, tout ça. Et partout où il allait, donc il ouvrait son cœur, il ouvrait ses bras aux malheureux qui lui demandaient de l'aide. Et quand il parlait aux foules, ben, il s'adressait à tous ceux qui étaient là. Il ne disait pas, bon, ben, s'il y a des non-juifs, il faut vous tailler, il ne faut pas écouter, il ne faut rien dire. Et ses paroles aidaient tout le monde, et ses paroles secouraient tout le monde, éclairaient tout le monde. Tous les auditeurs, tous les gens qui étaient là, étaient au bénéfice de ce qu'il disait. Mais il ne pouvait pas guérir tous les malades, et il ne pouvait pas délivrer tous les possédés de leurs démons. Et pourquoi ? Eh bien, parce que un maître spirituel a une mission déterminée, une mission à remplir, et il n'est pas autorisé à sortir des limites qui lui ont été imposées. Voilà. Là où il se trouve, et dans le temps qui lui est donné pour sa mission, il ne peut pas s'occuper de tous ceux qui pourraient avoir besoin de son aide. Il doit faire ce qu'il doit faire au Père, et c'est tout. Et c'est tout. Et la mission de Jésus sur la terre d'Israël, elle devait durer 3 ans à peu près, et il devait se contenter, se concentrer sur les brebis qui faisaient partie de son troupeau. Et il les appelait les brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'étais envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela coûte à un maître, à un envoyé de Dieu, de prendre sur lui les fardeaux des êtres humains ? Les gens pensent en général que c'est facile pour Jésus, ben voyons, il a tellement de pouvoir, n'est-ce pas? Il n'a qu'à prononcer quelques paroles, il n'a qu'à toucher les gens avec sa main, voilà, et hop, les gens deviennent saints de corps, saints d'esprit, c'est magnifique. Ben non, mes frères et sœurs, non, c'est pas comme ça que ça se passe, pas du tout comme ça que ça se passe. Et rappelez-vous que comme Jésus a été envoyé, eh bien, nous sommes nous-mêmes aussi envoyés. C'est écrit, c'est Jésus qui le dit dans Jean chapitre 20, verset, je crois, 21, c'est cela. Donc, comme il a été envoyé, nous sommes envoyés, nous avons une mission et nous ne devons pas en sortir. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas autorisés à faire d'autre chose que ce que Dieu nous demande de faire. Maintenant, je vais vous poser une question toute bête. Est-ce que vous savez ce que c'est que les miasmes? Vous avez regardé dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est que les miasmes? Les miasmes, c'est des souillures, c'est des émanations dangereuses, et même, d'après la Bible, puantes. Eh bien, quand un envoyé de Dieu aide quelqu'un au nom du Seigneur Jésus-Christ, guérit quelqu'un au nom du Seigneur Jésus-Christ, délivre quelqu'un au nom du Seigneur Jésus-Christ, il perd de ses forces. C'est écrit dans Luc 6, 19. Il faut connaître les choses de l'esprit pour pouvoir en parler. Beaucoup de gens se permettent de dire des choses au sujet de l'esprit, mais ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais chassé un démon. Ils n'ont jamais prié pour un malade, ils n'ont jamais été guéris, ils n'ont jamais senti cette force sortir d'eux, ils ne connaissent rien, puis ils parlent, voilà. Et quand on perd quelque chose de sa force, c'est parce que cette force-là nous a été donnée par celui qui nous a mandaté afin que celui qui doit recevoir reçoive cette force. Et quand on chasse par exemple un démon, eh bien, ce démon, il sort. Et il y a des conséquences. On a besoin de se débarrasser, les serviteurs de Dieu ont besoin de se débarrasser des miasmes, c'est-à-dire des souillures, des émanations dangereuses. Alors, on envoie les mauvais esprits dans les ténèbres, on les lie au nom du Seigneur Jésus-Christ, on les voit, on les envoie dans les ténèbres. Bon, ça c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on croit. J'espère que vous me croyez. Si vous ne croyez pas, ce n'est pas grave. Mais si vous travaillez vraiment avec et pour Dieu, vous comprenez très vite, vous allez comprendre très vite ce que je vous dis, c'est la vérité. Par exemple, quand on chasse un démon du corps d'une personne possédée, on a beau le lier, le chasser, tout ce que vous voulez, la Bible nous dit, et flûte pour toutes les autres doctrines, que le mauvais esprit, il va dans les lieux arides, mais qu'il n'y trouve pas de repos. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il cherche soit à revenir dans la personne qui était possédée, ou ailleurs. Mais il ne veut pas rester dans les lieux arides. Parce qu'il s'y embête, il ne trouve pas de repos là. Souvenez-vous que Jésus chassa les mauvais esprits du ou des possédés de Gadara, et il les envoya dans des cochons. Vous vous souvenez de ça? Et les cochons sont suicidés. Donc après, les mauvais esprits ont dû aller ailleurs. Et c'est ce qui arrive parfois quand on chasse un mauvais esprit, une fois qu'il est sorti du corps de la personne possédée, il peut aller chercher refuge chez un de nos ennemis. Ah oui. Et ce démon que nous avons chassé d'une personne va se loger chez un de nos ennemis, parce qu'ils connaissent toutes nos histoires. Hein. Et alors, ben écoutez, cet ennemi peut nous nuire encore davantage parce qu'il est sous l'emprise d'un démon. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et vous savez comment j'ai été attaqué? Et vous savez comment j'ai été averti par un songe à ce sujet? afin d'être délivré de ce miasme, c'est-à-dire de cette chose sale, de cette impureté, de cette souillure, de ce démon, de cette émanation, de cette chose mauvaise. Et c'était tout un combat. On ne rigole pas avec les démons. On ne s'amuse pas. C'est pas que je m'amusais, mais il faut aussi être prêt à assumer après. Il y a des gens qui sont ténèbres. La Bible nous dit que leur lumière est ténèbre. Matthieu 6, 23. Quand vous chassez des démons dans les ténèbres, ils vont là où sont les ténèbres. Et s'ils trouvent tout près de chez vous, tout près de vous, quelqu'un qui est ténèbre, ben il va là-dedans. Il va se réfugier dans une personne dont la lumière est ténèbre. Et alors, eh ben c'est la cata. Hein? C'est la cata. Alors, Jésus menait le même combat que nous menons. Il nous a dit, comme j'ai été envoyé, je vous envoie faire les choses que moi j'ai faites. Et il avait un champ d'action qui avait été fixé par le Père et il ne devait pas en sortir. Il avait été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. S'occuper d'autre chose le plaçait en porte-à-faux avec sa mission et avec celui qu'il avait envoyé. C'est-à-dire qu'il n'était plus, en quelque sorte, sous protection rapprochée, puisqu'il avait dépassé les limites, tout en voulant faire le bien. Combien j'ai vu des gens par ici chasser des démons, des personnes qui avaient reçu, n'est-ce pas, qui ont une malédiction, et ils veulent chasser des démons de ces gens-là, mais ils sont contre Dieu en faisant ça, ils ne se rendent même pas compte, ils ne savent pas, ils imposent les mains avec précipitation, ils font n'importe quoi, puis après ils s'étonnent. Et ça pouvait le mettre en danger, Jésus, ça pouvait le mettre en danger. Je vous parle de choses spirituelles, je vous parle par expérience, je vous parle de choses écrites. Je ne vous raconte pas des histoires. Bien, alors, on peut aussi s'étonner de l'image que Jésus utilise en parlant à cette cananéenne. Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. Ça semble cruel. Ça semble même insultant, c'est vrai, hein? Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là, Jésus? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Le pain, c'est une nourriture essentielle, et le pain est très présent dans toutes les Écritures. Tout au long des Écritures, on trouve le pain en général. Le pain est le symbole des nourritures spirituelles. Je vous parle spirituel, je suis un pasteur, je ne suis pas un pharmacien, je ne suis pas un garagiste, je vous parle de choses spirituelles. Je ne suis pas un philosophe non plus, si vous voulez écouter de la philosophie, il y en a ailleurs. Là, je vous parle de choses spirituelles. Alors, voyons ce que représente le pain et les petits chiens. Jésus avait reçu du pain de la part de son Père, c'est-à-dire de la nourriture qu'il devait donner à ses brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord ? Dit de moi-même, je ne peux rien faire, je ne fais que ce que je dois faire au Père, et il donnait de la part du Père, il apportait aux gens ce que le Père lui avait donné d'apporter. Et il devait rester dans sa mission à ses enfants, aux enfants d'Israël. Avait-il le droit d'en donner aux chiens ? Et nous, est-ce que nous avons le droit de tout donner à tous? Ce que nous recevons du Père, est-ce qu'on a le droit de le donner aux pourceaux? Encore plus loin que les chiens, là. Hein? Cette nourriture spirituelle, nous la recevons du Père, nous la préparons dans nos cœurs, elle influence déjà notre vie. C'est comme ça que Jésus a pu croître en stature et en sagesse. Nous la préparons dans notre intellect, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre esprit. Et nous ne devons pas en donner aux chiens ni aux cochons. Matthieu 7, 6. Voilà. C'est-à-dire, nous ne devons pas en donner aux entités inférieures. Nous devons les garder précieusement pour les donner à qui de droit ? À ceux que le Père nous envoie. Vous savez, comme je vous l'enseignais, nous qui avons la prêtrise, nous bénéficions du ministère d'ange. Mais il faut savoir aussi une chose, si nous débordons de notre mission, ils ne peuvent pas venir à nous. Je me rappelle toujours de quelqu'un qui disait, les anges sont avec toi, mais quand tu dépasses 130 sur l'autoroute, eh bien, ils sortent de la voiture. Ils ne sont pas tenus, n'est-ce pas, de te protéger quand tu es sorti, n'est-ce pas, du cadre de la loi. Et quand tu sors de la mission que Dieu t'a donnée, eh bien, les anges ne sont pas tenus de te protéger et de t'aider, pas du tout. Les anges ne viennent à nous que dans certaines conditions, parce que eux aussi, ils sont mandatés et ils n'ont pas le droit de sortir de leur mission, de la mission qui leur a été imposée. Alors écoutez bien, comme Jésus a été envoyé, nous sommes envoyés, ça veut dire que nous sommes des anges. Envoyé, ça veut dire ange. Or, que dit Jésus ? Ma nourriture, mon pain, c'est de faire la volonté de Dieu. Quand il faisait la volonté de Dieu, il recevait de la nourriture, son pain. Et c'était au quotidien. Notre nourriture est également de faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce que vous croyez au sujet des anges ? Ben, c'est la même chose. Eux aussi se nourrissent en faisant la volonté de Dieu. En nous aidant, en nous secourant, en nous protégeant, ils se nourrissent, c'est-à-dire c'est nous qui leur donnons le pain, la nourriture dont ils ont besoin quand nous sommes dans la volonté de Dieu. Et quand nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, ils n'ont pas envie de venir bouffer des miasmes. Mais si ils arrivent vers vous et constatent qu'ils ne sont pas attendus, c'est-à-dire que vous avez déjà donné ce que vous avez reçu à des entités inférieures, ben ils s'en vont. Ils s'en vont. Les visiteurs du ciel, les anges, descendent vers vous chaque jour. Ils sont chargés de missions, ils sont chargés de présents pour vous, mais vous devez être en position de pouvoir les accueillir avec une nourriture qu'ils apprécient. Et si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, comme Jésus avec cette cananéenne, vous risquez de ne pas avoir leur aide. Et là, c'est vous qui voyez. Cette cananéenne, elle a argumenté avec une telle foi qu'elle a touché le cœur de Jésus. Et il lui a donné le pain, c'est-à-dire une force, qui était destinée à d'autres. Il a pris ses responsabilités, Jésus a pris ses responsabilités face au Père, face aux anges, et il a assumé les conséquences qui allaient pouvoir en découler. Jésus se nourrissait en faisant la volonté de Dieu, comme nous, nous nous nourrissons en faisant la volonté de Dieu, comme les anges se nourrissent en faisant la volonté de Dieu. Jésus commença donc par ne rien dire. Quand elle commençait à poser, à demander, il ne dit rien, il ignore. Comme elle insiste, il refuse catégoriquement, même d'une façon un peu bizarre, hein. Insultante. Il refuse de lui donner le pain, c'est-à-dire il refuse de lui donner ce qu'elle demande, parce qu'elle est cananéenne, elle n'est pas dans le cadre de sa mission. Et puis il finit par accepter parce qu'il se laisse attendrir, parce qu'il voit que dans cette bonne femme, il sent qu'elle est, elle, c'est une femme noble, elle a la foi, et bien que non-juive, elle a une foi remarquable, alors il finit par lui donner ce qu'elle demande. En faisant cela, il bouleverse sa mission. Il fait une chose pour laquelle il n'avait pas été envoyé. Et les démons sortent de la gamine, de la fille de la Cananéenne, et ils vont quelque part. Où est-ce qu'ils vont? Ben, dans la foule, il y avait des pharisiens et des sadducéens qui étaient déjà des gens qui critiquaient Jésus, qui cherchaient la petite bête. Lisez bien l'histoire que Matthieu nous relate là. Lisez bien l'histoire, lisez bien qu'est-ce qui s'est passé. Vous allez voir. Juste après, Jésus, donc, après avoir chassé les démons de cette gamine cananéenne, il monte sur la montagne, il guérit une multitude de boiteux juifs, une multitude d'aveugles juifs, des muets juifs, des estropiés juifs et beaucoup d'autres malades juifs. Ça, c'était sa mission. Et la foule de juifs et de non-juifs était émerveillée de voir tout cela. Ils l'ont vu. Et ils étaient émerveillés de voir tout cela. C'est ce que la Bible nous dit. Et ils louaient Dieu. Mais pas les pharisiens, pas les sadducéens, qui ont vu les mêmes choses, mais ils n'étaient pas émerveillés du tout. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ténèbres. Et en plus, une nouvelle couche venait d'être rajoutée. Les démons sortant de la fille cananéenne ont trouvé un terrain tout à fait ténébreux et favorable. Ils sont rentrés là-dedans, dans ces pharisiens et dans ces sadducéens. Ils sont entrés en eux et ils les ont rendus aveugles et insensibles à la beauté du ministère de Jésus. Mais ça, c'est tellement classique. Combien de miracles ont été faits? Et regardez les gens ténèbres, ils disent que c'est les démons qui agissent au travers de moi. D'où c'est que ça vient cette idée? Et ils se sont mis à faire des histoires à Jésus, à le mettre à l'épreuve, à demander un signe du ciel. Mais c'est écrit, mais lisez le texte. Il venait de se produire des centaines de signes du ciel visibles. Des aveugles qui retrouvent la vue, des paralytiques qui marchent, des boiteux qui marchent, des toutes sortes de maladies guéries, des choses. Mais eux, ils n'ont pas vu que c'était des signes du ciel. C'est fort quand même. Vous voyez? Ils étaient bourrés de miasmes. Les émanations, les miasmes spirituels enténébraient leur cœur, leur âme, leur intelligence, leur esprit. Vous comprenez maintenant mieux comment ça se passe? Voilà ce qui arriva, mes frères et sœurs. Et ça continue à arriver, parce que comme Jésus a été envoyé, nous sommes envoyés, nous aussi. Il avait des problèmes, tous ces gens-là, à cause des miasmes. Ils ne voyaient pas clair à cause de ça. Et nous aussi, si on sort un tant soit peu du plan de Dieu, on va être embêté par les miasmes. Jésus savait ces choses. Et il agissait toujours avec amour, même quand il sortait du champ de sa mission, la mission que le Père lui avait donnée. Il a agi avec amour pour cette petite fille, pour cette maman, si humble, qui disait, mais écoute, oui, c'est vrai, je ne suis pas digne de profiter de la force que tu as, mais ne serait-ce que quelques miettes, les chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Il était touché par ça, l'amour. Il savait, comme nous, que aussi toute chose concourt ensemble au bien de Dieu, au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Donc il s'est dit, de toute façon, ça, tout ça, ça va s'arranger. Ça va servir à la gloire de Dieu de toute façon. Alors, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Encore faut-il être appelé selon son dessein, parce que vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas appelés au ministère, ils sont appelés simplement à être des témoins. Mais ils ne sont pas appelés à être des évangélistes ou des pasteurs ou des docteurs ou des prophètes ou des apôtres. Ils ne sont pas forcément appelés. Comment est-ce qu'on est appelé? C'est dans le cadre de l'Église qu'on est appelé. Ensuite, on doit recevoir l'imposition des mains, ça c'est écrit, c'est comme ça, on ne s'autoproclame pas ministre du Seigneur comme ça, c'est pas vrai. se prétendre avoir un ministère n'est pas avoir été mandaté par Dieu. Et une personne qui joue au prophète ou qui joue au pasteur ou à l'évangéliste ou au chasseur de démons, il va devoir en assumer les conséquences, les miasmes. Pourquoi ? Parce qu'il est en dehors du cadre. Il n'a pas été appelé. Donc il est en dehors du cadre. Il n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Jésus n'était pas dans la volonté de Dieu quand il a chassé les mauvais esprits de cet enfant cananéen. Et pourtant, ça a marché. Parce qu'il y avait de l'amour dedans. Mais il n'était pas dans l'ordre établi par Dieu. C'est terrible, n'est-ce pas? Parce que voyez-vous, on peut parfois être touché par une personne qui n'est pas envoyée par Dieu vers vous, mais qui n'est envoyée que par l'ennemi afin de vous pourrir la vie. C'est pourquoi la Bible nous recommande, avec instance et insistance, par exemple, de ne pas imposer les mains avec précipitation et sans discernement. Pourquoi ? À cause des miasmes. Quand vous tenez l'épée de la parole de Dieu pour prêcher, je ne parle pas quand vous prenez un ou deux versets pour rendre témoignage dans une église ou au coin de la rue, voilà. Mais quand vous prêchez, ça c'est un ministère. Alors il y a deux entités qui se présentent à vous. Il y a un ange de Dieu qui vous dit, tu vas faiblir, c'est-à-dire tu vas perdre des forces. Et il a raison. Tu vas faiblir, tu ne vas pas savoir quel est le bon moment pour frapper, tu as peur, et tout ça c'est vrai. Et puis il y a un démon qui vient aussi et qui vous dit exactement les mêmes choses, mais alors exactement les mêmes choses. Et vous êtes surpris, l'ange vous dit, je vais t'aider. Et le démon dit aussi, je vais t'aider. Et si vous n'êtes pas vraiment envoyé par Dieu, si vous n'avez pas été mandaté par Dieu, si ça ne s'est pas passé dans l'ordre établi dans l'Église de Jésus-Christ, comme ça doit être fait d'une façon claire, avec l'approbation de l'Église et des autres ministères, pour manier l'épée de sa parole, afin de prêcher ou de prophétiser, vous allez comprendre la différence. Quelqu'un qui est véritablement envoyé, il va voir que les mots sont les mêmes, ceux de l'ange et ceux du démon, mais que les alliés ne sont pas semblables. Mais celui qui n'est pas mandaté, celui qui est en dehors du plan, celui qui agit en dehors du cadre de sa mission, il va rien voir, il va croire qu'il accepte l'aide d'un ange alors qu'il accepte l'aide d'un démon et il ne le sait pas. Et les miasmes viennent se coller à lui de plus en plus, et les ténèbres qui sont déjà en lui vont grandir encore davantage et vont lui rendre la vie impossible. Et autour de lui, ça va être que chicane. Et autour de lui, ça va être que problème et difficulté. Il va créer la division, et la division, l'esprit de division va le suivre partout où il va aller. Il va se retrouver tout seul devant son frigidaire à la fin. Et si vous êtes un vrai envoyé de Dieu en mission, par contre, là, vous allez saisir la main de l'ange parce que vous aurez le discernement des esprits, parce que les anges vont vous conduire, vont vous aider. Sinon, non, vous allez être aidé, oui, mais par l'autre. Pendant un petit moment, afin que vous y croyez et que vous vous enfonciez encore bien davantage dans les miasmes. Vous voyez, mes frères et sœurs, comme Jésus, nous disposons de la liberté de bénir ou de ne pas bénir. Et des fois, il ne faut pas bénir. Il y a des fois, il ne faut pas bénir. Même ceux qui demandent la bénédiction, il ne faut pas. Nous devons connaître notre mission. Nous devons connaître les limites de notre mission. Mais même en connaissant les limites de notre mission, nous sommes comme Jésus, libres d'en sortir parfois. Pour faire le bien, parce que le pouvoir, nous l'avons reçu, la force, nous l'avons reçu, le pain, nous l'avons reçu, et nous pouvons le donner. Mais alors, il va falloir payer les conséquences. Et les anges ne sont pas tenus de nous garder, de nous protéger.
Alors, on prend des décisions. Jésus a pris une décision ce jour-là. Bon, ben, je vais le faire quand même. Et cela ne doit pas nous empêcher d'assumer notre engagement premier. On doit revenir à notre engagement premier. On va payer les conséquences de toute façon. Mais il faut, après, il faut revenir vite dans le droit chemin, dans le cadre de notre mission. Mais si vous n'avez été appelé qu'à balayer, mais remerciez Dieu d'avoir l'honneur de balayer la maison de Dieu. Si vous n'avez reçu le ministère, entre guillemets, parce que maintenant tout le monde se balance des ministères qui n'existent pas. Il y a 5 ministères, c'est les ministères de la parole. Les autres, ce n'est pas les ministères, c'est les services. Si vous êtes diacre ou diaconesse, ou si vous avez reçu un don ou quelque chose, c'est bien, ça n'a rien à voir avec les ministères. Mais mettez-les en exercice sous l'ordre établi de l'Église, sinon les miasmes. Et vous allez payer les conséquences, et ça sera bien fait pour vous, parce que vous aurez méprisé l'autorité de celui qui vous a mandaté. Vous avez le droit de le faire, Jésus avait le droit. Il a choisi, mais il a assumé. Même si nous ne comprenons pas pourquoi il faut n'agir que dans le cadre qui nous a été fixé par Dieu dans son Église, il faut quand même se soumettre. Vous savez, il y a un truc chez les musulmans, c'est le mot islam. Le mot islam, savez-vous, ça signifie soumission. Eh bien, c'est quelque chose qui manque dans l'Église de Jésus-Christ. Tout le monde fait comme il veut. Si tu choisis mal, eh bien, tout d'un coup, tu vas te réveiller et puis tu vas être vraiment étonné de ce qui se passe. Et tu ne vas parler qu'à des gens qui ne reçoivent rien de ce que tu dis. Ce que tu vas apporter n'apportera rien. Et tu vas devoir consentir à des sacrifices inutiles. Et voilà. Alors oui, comme Jésus, tu es libre. Tu es libre. Mais souviens-toi du pain. Vous savez, le pain. Ah, alors beaucoup de gens disent, mais il faut être ouvert, Michel, tu es fermé là, tu es coincé dans tes histoires d'église et de hiérarchie dans l'église, tu es fermé, tu es sectaire et tout. Non, pensez ce que vous voulez, vous en avez le droit. Mais souvenez-vous que le pain dans un four ouvert, il ne cuit pas. Il ne cuit pas. Jésus aurait dû rester fermé. Il aurait dû rester sur sa première décision. Non, je ne te bénis pas, je ne bénis pas ta fille. Waouh, mais qu'est-ce que les gens auraient dit? Et vous savez, la nourriture, notre nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est pas de faire autre chose. Et manger du pain pas cuit, c'est indigeste, comme les miasmes. Qu'est-ce qui se serait passé si Jésus était resté sur sa position? Non. Je ne suis pas venu pour les chiens. Waouh. Ça aurait choqué le monde entier. Déjà que ça choque que Jésus ait pu dire ça. Après on dit, ah ouais, mais il est revenu sur sa décision, il a bien fait. Quel amour, c'est merveilleux. Voyez, Jésus répond à la foi. Oh, il est bon, il est gentil, oui, mais il faut quand même regarder. Il est sorti du cadre de sa mission. Que choisir? De toute façon, si vous choisissez de faire quelque chose en dehors de la mission qui vous a été assignée par amour, déjà, c'est pas mal. Parce qu'il y en a qui sortent du cadre de leur mission pour faire des choses et se servir du pouvoir que Dieu leur a donné pour faire le mal. Ça, c'est encore pire. Mais si vous sortez du cadre par amour, encore que Jésus l'a fait par amour, même si ce n'était pas dans le plan du Père. Mais Jésus a fini seul, à la croix, abandonné de tous. Pourquoi? Parce que là, il a nourri les pharisiens avec des miasmes. En fait, les miasmes qui ont nourri les pharisiens et les sadducéens ce jour-là, ont précipité les choses en direction de la croix. Vous ne me croyez pas? Ça n'a aucune importance. aucune importance.
Que fit donc Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Eh bien, il a choisi la solitude, mais il ne l'a pas subie. Vous allez la subir. Lui ne l'a pas subie, parce qu'en fait, il était venu pour cette heure, il était venu pour la croix. Vous, est-ce que vous connaissez votre mission? Est-ce que vous savez ce que vous avez à faire? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes en ordre? C'est-à-dire, est-ce que vous avez suivi le bon processus biblique, juste, clair, net? Ou est-ce que vous vous êtes autoproclamé? Ah ouais, mais Dieu bénit. Ah ça, oui, Dieu bénit. Hein. Regardez, la fille cananéenne, là, elle était bénie. Hein. Elle est débarrassée de ses démons. C'est pas la preuve que vous êtes dans le cadre de la mission que Dieu vous a assignée. Réfléchissez bien à ça et arrêtez d'être orgueilleux. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Amen. Jésus, je te prie de bénir chacun d'entre nous, que nous soyons des gens prudents, que nous soyons des gens avisés, que nous soyons des gens soumis et que nous puissions faire ta volonté uniquement, même si cela peut choquer des âmes sensibles dégoulinant de bons sentiments. Merci Jésus. Amen. Amen. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. Nous allons continuer à louer le Seigneur et puis ensuite nous terminerons, nous mangerons une bonne raclette que Michou a préparée. Que Dieu vous bénisse. Au revoir mes frères et sœurs.